Cher auditeur, cet épisode a été enregistré en néerlandais. L'interview a été traduite et doublée avec une voix générée par l'intelligence artificielle, afin de conserver au mieux l'authenticité de la voix originale. Bonne écoute. Bienvenue dans notre podcast sur l'Expo 58. Dans cet épisode, nous vous ramenons également en 1958. Quand un journal coûtait 2 francs, la NASA voyait le jour et le hula hoop en plastique prenait le monde d'assaut. Imaginez, nous sommes en 1958. Vous êtes une jeune femme à la recherche d'un emploi. Serez-vous infirmière ou institutrice, assistante commerciale ou secrétaire? Comme dans beaucoup d'autres régions du monde, vos choix sont limités et de nombreuses professions et secteurs restent dominés par les hommes. Et si vous aviez la chance de voir le monde entier en quelques heures? Et si vous pouviez devenir la figure de proue d'un pays? Et si vous étiez hôtesse à l'Expo 58? Margaret Jacquette Overzeer l'a vraiment vécu et est devenue la plus jeune hôtesse de l'Exposition universelle de Bruxelles.
Je m'appelle Margaret Jacquette Overzeer, mais à l'époque de l'Expo, je n'étais pas encore mariée. Je m'appelais donc Margaret Overzeer. Je suis née à Ostende, il y a longtemps maintenant. J'ai découvert que les gens cherchaient des hôtesses en 57 pour l'Expo 58. J'ai immédiatement pensé, c'est quelque chose pour moi, c'est ce que je veux faire. Je me suis donc inscrite, ou j'ai pris contact. Je ne me souviens pas exactement comment cela s'est passé. Et ils ont réagi en m'envoyant une lettre qui disait « Voilà, mademoiselle, vous pouvez venir vous présenter ». C'était encore dans la Weststraat et je ne connaissais pas vraiment Bruxelles parce que je venais de la province. J'y ai été bien accueilli et après un certain temps, un très court laps de temps, j'ai été informé que j'avais été accepté et que je pouvais commencer immédiatement en mai 58.
Les hôtesses, au même titre que l'atomium, font partie du mythe de l'Expo 58. 280 jeunes filles souriantes, polyglottes et dévouées qui accueillaient et guidaient les millions de visiteurs. Leurs tâches étaient variées et étendues. Elles donnaient des informations aux visiteurs, répondaient à leurs questions, organisaient des visites et participaient aux cérémonies et événements officiels. Une tâche importante car la Belgique voulait faire une impression durable sur ses visiteurs belges et étrangers en projetant une image jeune et brillante. Coquettes et disciplinées, elles symbolisaient la femme moderne des années 50 avec leurs vestes rouges et leurs chapeaux bleus. Les hôtesses sont devenues le visage de l'Exposition universelle.
La fonction d'hôtesse était assez complète et je n'ai fait que le découvrir petit à petit. Mais apparemment, la direction là-bas avait l'impression que j'étais probablement douée pour me sortir de situations qui s'y produiraient. D'ailleurs, cela ne m'a jamais arrêté. Le métier d'hôtesse, en 57, l'expo n'était pas encore ouverte. Mais il y avait déjà des réunions et des représentations ici et là qui nécessitaient des hôtesses. Nous avons donc déjà... Quand je dis nous, je veux dire quelques collègues qui avaient évidemment également été acceptés. Et nous avions donc notre uniforme et de cette façon, on informait déjà un peu le public belge de ce que seraient les hôtesses de 1958. Il faut savoir que nous étions donc les hôtesses officielles de l'Expo 58 parce que l'Expo 58 était rempli de pavillons. Et tous ces pays différents avec leurs pavillons avaient amené leurs propres hôtesses. Mais nous travaillons déjà en 57. Ce travail existait donc, y compris au poste frontière, car de petits pavillons y avaient été érigés. Il s'agit également de faire beaucoup de publicité. Par exemple, dans mon cas, c'était principalement à Oostwezel. Il y avait encore des frontières et les Néerlandais devaient donc toujours s'arrêter aux frontières. Et nous y allions avec des paquets de publicité et nous expliquions. Voilà ce qu'il y aura. Oh, on va certainement le faire. On va venir. Ils font toujours ça, connaissant les Néerlandais. Voilà, donc ça a eu du succès, donc, car c'était aussi un peu ici et là, à la côte, à différentes occasions où nous nous faisions connaître et faisions la publicité pour l'expo. C'était en fait la tâche principale qui nous avait été confiée. Des interviews ont également eu lieu à la radio et à la télévision. Tout cela était passé par là aussi. J'ai des photos de cela. À Sceaux, parmi elles, il y avait des tâches très importantes. Ça. Mais je dois maintenant admettre honnêtement qu'elles étaient constamment plutôt attribuées aux hôtesses plus âgées. Alors, comme j'étais le plus jeune, j'avais peu de tâches à accomplir. Mais certaines devaient vraiment accueillir des ambassadeurs ou des vedettes très importantes, comme Sophia Loren, je dis ça comme ça. Elle est d'ailleurs venue, je n'étais pas présente pour ça. Je l'ai bien vue, mais ma tâche était plus simple. Mais j'assistais quand même à des dîners où il y avait des gens importants auxquels nous pouvions éventuellement répondre aux questions qu'ils avaient, ces gens qui étaient présents. En revanche, le coaching de haut niveau s'adressait plutôt aux personnes âgées qui avaient alors au moins 25 ans, ceux qui avaient un peu plus d'expérience, ce genre de choses. J'aurais peut-être aussi pu le faire, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Oui, cela fait longtemps, bien sûr. J'ai pu faire visiter plusieurs personnes, plus ou moins importantes, comme un couple américain d'autant. L'homme était en garnison en Allemagne et est ensuite retourné en Amérique. Il voulait visiter Bruxelles et l'Atomium avec sa femme. J'ai donc obtenu ce poste à ce moment-là. Je me souviens de ces gens, ils étaient très aimables et ils m'ont envoyé un cadeau après, c'est parce qu'en tant qu'hôtesse, nous n'avions pas le droit d'accepter quoi que ce soit, surtout de l'argent. Pas de cadeau non plus, tout cela était interdit. Qu'a fait cet homme? Il m'a envoyé une ceinture par la poste depuis l'Amérique. Oui, je ne l'ai alors plus renvoyée. Je m'en souviens très bien.
L'Expo 58 est une célébration du progrès et annonce une ère moderne. Cela se retrouve dans l'uniforme des hôtesses. Au cours des années 1950, la mode subit une véritable transformation. Les tenues strictes des années 1940 sont progressivement remplacées par des tenues plus décontractées. Et à la fin de la décennie, la mode devient plus expérimentale. Les influences des années 60 à venir sont sous-jacentes. Les créateurs s'orientent vers des lignes plus simples, moins de fioritures et une tendance générale à la modernité. L'uniforme des hôtesses est également conçu dans cette optique. Il est élégant, fonctionnel, avec un look contemporain qui incarne l'esprit avant-gardiste de l'événement. La coupe et le style sont représentatifs de la mode de la fin des années 1950, mais avec une touche formelle et professionnelle qui convient à un événement d'une telle ampleur. Il est clair que l'uniforme éveille encore quelque chose dans l'esprit des gens. Les yeux de Margaret s'illuminent lorsque nous lui demandons de décrire l'uniforme. Elle s'en souvient en détail. L'uniforme d'hôtesse a atteint un statut presque mythique et pour beaucoup, il symbolise la mode des années 1950.
Je commencerai par le chapeau. C'était un petit chapeau triangulaire bleu marine, puis une chemisette blanche, puis un gilet cramoisi rouge un peu ajusté, ressemblait sur la chemisette une cravate noire, une jupe bleu marine en Steinbach, peut-être des bas, ça avec une couture. Pourtant, il fallait que ce soit avec couture. Et des escarpins bleu marine, donc pas des talons trop hauts, et en plus un sac à main, un sac à bandoulière, une bandoulière Delvaux. Celui-ci a également été fabriqué spécialement pour l'occasion. L'uniforme, je crois qu'il y en a un qui est exposé ici. Et puis, pour certaines occasions, des gants blancs. En hiver, des gants bleu marine. Et parce que j'ai aussi travaillé pendant l'hiver 57 à 58, j'avais non seulement un Macintosh, mais aussi un ordinateur plus chaud. c'est déjà un peu particulier, spécial. La plupart d'entre eux, eux n'avaient qu'un Macintosh.
Comme nous l'avons dit précédemment, en tant que jeune femme dans les années 1950, vous aviez peu de choix ou d'opportunités sur le marché du travail. Certaines femmes devenaient infirmières ou enseignantes, d'autres opportunités de carrière étaient exceptionnelles. Vous pouvez imaginer que le métier d'hôtesse a donc séduit un très grand nombre de jeunes femmes. Un appel a été lancé et les candidatures ont afflué. Pas moins de 3000 femmes de tous les coins du pays rêvent de devenir hôtesse et posent leur candidature. Le message est également parvenu à Ostende, où Margaret vivait à l'époque. Elle est inspirée par cette opportunité et s'inscrit avec beaucoup d'enthousiasme. Un travail aventureux en tant qu'hôtesse, c'est ce qu'elle veut. Mais il faut d'abord qu'elle soit sélectionnée.
Oui, mais il y avait des tests sur place, des tests écrits, des tests oraux avec différentes personnes, notamment avec Madame Mott, entre autres. Ils ont également dû tester l'état de mon néerlandais, car on peut bien dire qu'on est bilingue, mais ça peut aussi ne pas très bien fonctionner. Il fallait donc le prouver un peu. Et puis de ces tests psychologiques, du dessin et de ce qui était à la mode à l'époque pour voir ce que tu avais dans le ventre. Parce que c'est probablement dans ma nature d'interagir avec les gens. Et j'ai toujours eu l'impression, une hôtesse est en effet en contact avec de nombreuses personnes. Plus tard, j'ai également envisagé de poser ma candidature à la Sabena. Mais là, il fallait avoir 21 ans, ce qui n'était pas encore le cas. J'ai donc pensé que si je pouvais vivre cette expérience, j'avais déjà une bonne éducation et rejoindre la Sabena ne posera aucun problème. Mais cela n'a rien donné de plus. Je n'étais pas nerveuse, j'étais surtout curieuse, pas. Mais j'ai fait en sorte d'avoir l'air solide. C'est normal, mais pas nerveuse. Je n'avais pas peur non plus. J'ai toujours été assez entreprenante, alors je me dis qu'il faut que j'y aille. Si je veux cela, je dois y aller, point final. C'était nouveau d'avoir des hôtesses officielles, en uniforme en plus, et on n'avait pas l'habitude de ça, à part bien sûr pour les hôtesses de la Sabena. Ce sont les seules hôtesses que l'on connaissait en Belgique. Il n'y avait pas encore d'entreprises, de banques ou de sociétés qui avaient leurs propres hôtesses ou personnel d'accueil. C'est en fait tout né de là après. Je me souviens qu'on admirait les hôtesses en général, d'autres jeunes filles trouvaient ça fantastique et s'y intéressaient et nous posaient 1000 questions. Comment seulement cela se passe-t-il donc? Comment faites-vous cela? Donc, que devez-vous faire? Que devez-vous savoir? Etc. C'est-à-dire, ça suscitait l'admiration. C'était un bon salaire. Je me souviens qu'il s'agissait de 6500 francs belges, pour ce qui me concerne. Car pour chaque langue supplémentaire, on recevait un montant plus élevé. J'avais donc 6500 francs belges. Mais tu vois, moi, je devais aussi payer mon loyer et ma nourriture avec ça. Et mes parents disaient, si tu travailles, il faut que tu t'en sortes. Ça. Juste de cette petite voiture d'occasion, je l'avais bien reçue. Parce qu'ils ont compris qu'après tout, il était difficile de tout faire. Mes parents n'y voyaient pas d'inconvénience. J'avais déjà des parents plus âgés. J'avais une sœur qui avait 11 ans de plus que moi et pas d'autres entre nous. J'étais ça un peu le petit dernier. Et ils étaient peut-être en un sens aussi contents que je prenne vite mon envol et que je m'en aille. Mais ils trouvaient ça bien et mon père était très fier.
Une fois sélectionnées, le vrai travail commence. Les hôtesses sont préparées à la perfection par Madame Mott, la légendaire chef de la brigade. Une école est créée où elles sont, pour ainsi dire, formées et où elles apprennent toutes les ficelles du métier. On leur explique le fameux règlement, on leur enseigne l'hospitalité et l'étiquette et on leur fait pratiquer les langues. Ces leçons n'étaient pas faciles et il fallait faire preuve de beaucoup de discipline. À des fins d'entraînement et de promotion, elles ont été déployées au poste frontière et lors d'autres événements au cours des années qui ont précédé le début de l'exposition universelle. Elles ont ainsi été préparées à l'inauguration du 17 avril 1958.
Oui, c'était aussi une mission. Je pense aussi qu'en 1957, c'était encore en 1957, cette tournée à Eindhoven, tout cela faisait partie de la communication, de la publicité pour l'expo. Des hôtesses francophones sont envoyées à Paris, par exemple. Et puis, bien sûr, je n'étais pas là parce que mon français n'était pas ma langue maternelle. Je suis bilingue, mais ce n'était pas ma première langue. Donc, pour cela, c'était les hôtesses bruxelloises, liégeoises ou autres qui étaient envoyées à Paris ou au poste frontalier de ce côté-là. Pour moi, c'était en fait le quartier nord, Eindhoven en hélicoptère et puis l'hélicoptère de Maastricht aussi, en voiture jusqu'à Amsterdam. C'est là que nous sommes revenus à la publicité. Nous étions invités partout et ça se passait très bien. D'ailleurs, j'étais avec deux autres hôtesses un peu plus âgées que moi. Donc, elles veillaient à ce que je me conduise bien.
Margaret est donc préparée à son rôle d'hôtesse dès 1957. Lorsque l'expo ouvre ses portes en 1958, les choses sérieuses commencent. Les hôtesses ont les nerfs à fleur de peau, mais elles sont prêtes et relèvent le défi avec enthousiasme. Mais à quoi ressemblait une telle journée pour les hôtesses? Margaret nous le raconte.
En tout cas, nous devions nous présenter chaque jour à 9h. Il fallait donc s'assurer d'être présent. Si tu habitais plus loin, il fallait que tu aies un moyen de transport ou les transports publics. J'ai alors eu la chance d'avoir une Volkswagen d'occasion. J'avais hérité de mes parents. C'était donc plus facile, hein, bien sûr, car j'habitais à Ixelles, bon, à l'époque, en néerlandais, Elsen. C'était donc plus facile, bien sûr. Quelque part à Ixelles, dans une famille où il y avait aussi une hôtesse. C'est un long chemin, de toute façon, qui était une rue secondaire de l'avenue Louise. C'est un honneur d'être ici à ce moment-là. Il fallait donc s'assurer d'être là à 9h du matin. Il fallait alors taper une carte de présence. Ensuite, il fallait venir au salon général où se trouvaient plusieurs hôtesses. Il y avait un bureau dans cette petite pièce, comme qui s'assurait ainsi de leur affectation pour telle et telle et telle certaines missions en fonction de leur importance. Alors, il fallait donc attendre de savoir quelle était la mission de la journée. Si c'était rapide, tu partais tout de suite. Tu étais alors à l'intérieur de l'expo, soit avec un groupe où tu devais te rendre à l'endroit convenu. Par exemple, à l'Atomium ou en haut du Palais 5, ici. Ensuite, je récupérais mon groupe et on faisait un tour de l'expo. Souvent aussi avec des enfants, des gens plus lents, des étrangers. Et alors, on leur demandait « Quel pavillon voulez-vous voir ?» Et c'est à peu près ce qui s'est passé la plupart du temps. Jusqu'à 18 heures environ, je me suis dit. Puis retour à la maison. Et à midi, assurez-vous d'avoir mangé un sandwich ou se nourrir quand même entre-temps. Parfois, on était invité. Donc si le groupe disait « vous mangez avec nous, pas de problème », donc tout était possible.
Pour le monde extérieur, le métier d'hôtesse d'accueil semble être une tâche facile. Sourire et saluer, c'est tout ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas? Rien n'est moins vrai. Le métier d'hôtesse n'est pas à sous-estimer. Les hôtesses doivent respecter des règles strictes, rester aimables à tout moment et travailler de longues heures. Elles doivent également accompagner les VIP, car plusieurs présidents, ambassadeurs et stars de cinéma ont visité l'Expo 58. On attendait des hôtesses qu'elles soient capables de tenir une conversation avec toutes ces personnalités.
Oui, le règlement de... je l'ai quelque part dans mes archives, je crois. Les règles sont encore strictes, bien sûr, mais c'est une évidence. Je veux dire, quand quand on le lit, on se dit point 1, oui, bien sûr, point 2, point 2, oui, bien sûr. C'était naturel. Mais il devait être là, juste pour rappeler à certaines hôtesses qu'elles devaient faire ceci et cela autrement. Et connais-tu une règle particulière? Une certaine règle, c'était qu'il fallait toujours veiller à avoir une apparence soignée pour commencer. Eh bien, strict. Il savait que nous étions un peu prudents, que les cheveux tiennent bien sous le chapeau, parce que certains ont des cheveux plus rebelles que d'autres. Les cheveux longs n'étaient pas autorisés, il fallait les attacher en chignon si on avait les cheveux longs, quoi. Les tresses, strip tresses non plus n'étaient pas permises. Vous voyez, j'ai les cheveux courts, donc ça allait, pas de problème. Bon, bien sûr, l'uniforme devait être en ordre, mais soyez rassurés, il a été examiné à l'insu de tous, que tout aille bien. Et puis, bon, si nécessaire, on te faisait une remarque du genre « tu ne devrais toi, pas mieux brosser ta veste » ou quelque chose comme ça.
Bien sûr, l'esprit de l'époque était complètement différent. Si vous ne respectiez pas les règles, vous étiez inexorablement mis à la porte. Les hôtesses devaient avoir de la classe, et tout passe-droit pouvait avoir des conséquences. Par exemple, Margaret se souvient de l'histoire de certaines collègues qui s'est transformée en véritable scandale.
Il y a des hôtesses qui ont pris un bain de soleil sur le toit du Palais 5. Et cela, bien sûr, n'était pas autorisé. Et malheureusement, cela s'est révélé vrai. Heureusement que je n'étais pas là, car je suis sûr que... Car j'avais justement mes 2 jours de congé, puisque je travaillais... C'était 5 jours et puis 2 jours de congé. Je n'étais donc pas là parce que je viens de la mer et que je veux du soleil. Normalement, j'aurais dû être là parce qu'ils ont tous été mis à la porte. C'est un regret car il y avait de très bons éléments. J'ai trouvé cela très, très mauvais. C'est très malheureux. Ils ont été trop sévères, à mon avis, à ce moment-là. Mais ne le dites pas au chef que vous verrez bientôt parce que elles attendaient une mission dans cette salle que nous avions au Palais 5. Et elles attendaient apparemment, alors que j'attendais une mission là, les autres jours. Alors, pendant un certain temps, il n'y a pas eu d'affectation et il a été convenu avec l'une d'entre elles, à garde un œil. S'il y a quelque chose, va demander de temps en temps, y a-t-il quelque chose? Et pendant ce temps, elle continuait, c'était tout près. Il y avait 1 ou 2 petits escaliers et elles étaient sur le toit. Et puis, ça s'est su, je crois, via un hélicoptère qui les a photographiées et c'est comme ça que ça s'est ébruité.
Quelle formidable expérience cela a dû être d'être hôtesse à l'Expo 58. Beaucoup d'entre elles venaient d'un petit village et débarquaient directement dans la ville de Bruxelles en pleine effervescence. Les milliers de personnes, les pavillons impressionnants et l'imposant Atomium. Quelle impression cela a dû faire! Margaret s'en souvient comme si c'était hier.
À commencer par l'Atomium, qui était le pavillon. Et puis, comme je l'ai dit, le génie civil et plusieurs autres pavillons qui étaient fantastiques. Les personnes que j'ai rencontrées ici à l'expo étaient toutes admiratives. Admiration, c'est le mot. Pour la jeune femme que j'étais, c'était bien sûr impressionnant. Je dois vous le dire. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être originaire d'une ville de province. Car il ne faut pas oublier qu'à Ostende, c'était aussi l'été, très fréquenté et encombré. Je ne viens donc pas exactement d'une petite ville tranquille, mais ici à l'expo, c'était plus mondain. Les gens sont venus de partout. C'était peut-être la première fois que je voyais des Japonais, des Chinois ou des gens dont on entendait parler, même les Noirs, on ne les voyait pas comme ça à Ostende. C'est ce qui s'est passé et c'était donc très international et j'ai découvert que le monde venait à moi en quelque sorte. Et en partie à cause de ces pavillons que j'ai ensuite visités parce que je suis allé les voir presque tous. Alors, j'ai donc su et j'ai pensé, le monde entier est à Bruxelles. Et vraiment, à ma connaissance, moi, cela ne s'est pas reproduit, en tout cas pas en Belgique. À quoi puis-je donc comparer cela? Tout comme les autres expositions. J'ai cherché quelques expositions. Je suis allé à l'expo de Séville. Je suis allé à celle de Lisbonne. C'était de belles expositions, mais celle de Bruxelles.
Margaret était la plus jeune hôtesse de l'Expo 58. Malgré son âge, elle a assumé de grandes responsabilités et les expériences qu'elle a vécues et les amitiés qu'elle a nouées tout au long de sa vie ont eu un impact durable sur elle. Le lien qui s'est développé entre les 280 hôtesses est indescriptible. Il n'y avait pas de jalousie et elles sont restées en contact après la fin de l'exposition universelle. Tous les dimanches, par exemple, elle appelle encore Madame Mott, la responsable des hôtesses, qui raconte son histoire dans un autre épisode. Pour Margaret, c'est clair, l'Expo 58 a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui.
Je pense en partie, oui, parce que tout ça, j'étais si jeune et parce que tout cela était si impressionnant. Il reste donc des traces, évidemment. C'est pourquoi j'aime toujours venir ici. Il y a eu plusieurs réunions par la suite et j'ai pensé que c'était une très bonne idée et je l'ai suivi presque à chaque fois. Et c'était agréable de se revoir. Oui, parce qu'ils étaient un peu partout et que c'est ainsi que les amitiés se sont développées. Car il ne faut pas oublier qu'à l'Expo, nous travaillons avec 280. Sur 3000 offres, 281 ont été retenues. Ce nombre de 280 a été divisé en équipes de 4. Et il y avait toujours quelqu'un de l'équipe qui avait un peu plus à dire sur les trois autres. Nous l'appelions l'hôtesse d'équipe. Je faisais donc partie d'une équipe et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer longtemps les autres membres de mon équipe. Et c'est avec tristesse que je dois vous dire que la dernière de mon équipe est décédée la semaine dernière. Donc, je suis la seule survivante de l'équipe. J'étais aussi le plus jeune. Alors oui, la prochaine fois.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous voulez d'autres histoires? Alors n'oubliez pas d'écouter les autres podcasts et plongez-vous dans le monde de l'Expo 58. Vous n'en avez jamais assez de l'Atomium ou de l'Exposition Universelle? Surfez sur atomium.be pour toutes les informations ou visitez l'exposition permanente sur l'Expo 58 dans les sphères de notre monument national.